Welcome.
It don't mean a thing if it ain't got that swing.
L'épopée des musiques noires.
Joe Farmer, Nathalie Laporte.
Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
Jigida, kani jigimi senya, omani kobena.
It's okay. You know, it's okay.
So now I think it's time to bring Mr. Quincy Jones! Quincy Jones! B.B. King!
Are we gonna do this one for everybody in the doggone house? We talking about the Wayne Dang Doodle.
Miles Davis! Al Jarreau, Randy Crawford, Neil Lawson, Gary Carlton.
Thank you very much. God bless you and keep you. Wow, you're beautiful.
Montreal.
Ce que vous venez de savourer est ce qu'on appelle communément un medley, en d'autres mots, un résumé très condensé de tous ceux, ou presque, qui ont eu le privilège de se produire au Montreux Jazz Festival en Suisse. Depuis 1967, ce rendez-vous musical majeur sur le continent européen accueille les plus grandes stars dans tous les genres confondus. De Miles Davis à Angélique Kidjo, de Stevie Wonder à Prince, de Quincy Jones à Youssou N'Dour, ils ont tous régalé les amateurs de jazz, de ballard, de funk, de reggae, de rock ou de soul music. Il faut dire que le fondateur du festival, le regretté Claude Knobs, avait pris soin de tout enregistrer. Il a ainsi constitué un patrimoine audiovisuel unique que les festivaliers ont pu cette année découvrir quotidiennement, puisque des séances de cinéma gratuites étaient organisées afin de satisfaire l'appétit musical des visiteurs. Ont-ils pu tout voir? Malheureusement, non, car beaucoup de documents restent à numériser, à restaurer et à formater pour qu'ils puissent être présentés au public. C'est en conversant avec notre homologue de la RTS, la radio-télévision suisse, Pierre-Philippe Cader, que nous avons levé un lièvre. Alors que notre collègue animait un atelier consacré aux mémoires de Duke Ellington, nous avons voulu savoir si le célèbre pianiste et chef d'orchestre était venu à Montreux. Si oui, il y a forcément quelque part des images de sa prestation, puisque Claude Knobs enregistrait tout. Nous avons donc mené notre enquête et profité de cette occasion pour concocter une émission consacrée à ce personnage central de l'épopée des musiques noires, l'illustre Duke Ellington. Nous sommes donc maintenant avec Pierre-Philippe Cader qui participe à ce 56e Montreux Jazz Festival en qualité d'expert du jazz, puisque vous évoquez ici l'immense Duke Ellington. Merci d'être avec nous.
Merci.
Chaque jour, un livre est mis à l'honneur durant le festival et vous avez eu la mission de présenter Music is My Mistress de Duke Ellington. Pourquoi cet ouvrage est incontournable pour un amateur de jazz ?
Alors il est incontournable parce qu'il raconte à la fois une histoire du jazz, celle de Duke Ellington, mais aussi, et il le dit très très bien dans sa préface, tous les carrefours auxquels il a été confronté, c'est-à-dire les époques différentes, les musiciens qu'il a pu rencontrer également, qui à chaque fois étaient l'occasion de choisir une direction plutôt qu'une autre. Et puis, c'est un homme qui a fait le tour du monde avec sa musique, à une époque où, précisément, les musiciens noirs américains, afro-américains, ne quittaient pas le pays en tout cas, et ne pouvaient pas tourner aussi facilement que cela autour du monde. Et puis ce livre aussi, parce que je l'ai reçu de la part de l'éditeur quand il est sorti en 2016, et je me suis dit, mais c'est dingue, je ne savais pas qu'il y avait un livre des mémoires de Duke Ellington. Et je me suis plongé dans ce livre sans vraiment savoir à quoi m'attendre, en fait, en réalité. Et tout à coup, bam, il y a un monde qui s'ouvre à moi. Et je me dis, waouh, ça c'est dingue, parce que c'est non seulement un livre qui parle de musique, mais c'est un livre qui parle de l'histoire américaine, l'histoire des États-Unis et l'histoire de ces gens. Alors dans le cas de Duke Ellington, plutôt la classe moyenne supérieure noire américaine, mais aussi de tout le reste, c'est-à-dire les petits blancs qu'il a rencontrés, aussi les musiciens de blues qu'il allait voir chanter, jouer dans des juke joints, des bars un peu pourris et dangereux, parce qu'eux étaient complètement mis en marge de cette société américaine, encore plus que lui à l'époque, alors que lui, finalement, toutes les portes s'ouvraient devant lui, d'une certaine manière. Et donc, j'ai découvert un monde, et puis surtout un homme d'une complexité, d'une richesse, d'une intelligence absolument inouïe. Et c'est génial de se dire, voilà, 60, 70 ans après, de lire ça et de se dire que, voilà, lui, il avait entrevu les choses d'une certaine manière. Il a réussi à faire passer sa musique, son message politique, et tout ça, touche après touche sur le piano, note après note, sans défoncer de porte, sans haine ni violence, parce qu'il n'y a pas un seul mot méchant ou une seule intention belliqueuse dans ce livre, et quelle que soit la personne dont il parle, c'est-à-dire y compris les gens avec qui il s'était brouillé dans son orchestre, il dit toujours du bien d'eux. C'est assez exceptionnel.
Pierre-Philippe Cader, qu'apprend-on finalement dans ce livre quand on le parcourt ?
Alors moi, j'ai appris beaucoup de choses. D'abord, j'ai compris, grâce à ce livre, une sensation un peu fugace que j'ai eue lorsque j'ai vu Duke Ellington la première fois à la télévision. Moi, j'étais fasciné par ces musiciens, d'abord, qui jouaient une musique que je ne connaissais pas, qui arrivaient dans des costumes absolument incroyables, entourés avec un big band, avec des types qui étaient tous beaux, impeccables, et qui étaient tous des virtuoses de leur instrument. Je me disais, waouh, ils ont vraiment la classe. On ne peut pas lutter contre ça. Accessoirement, il y avait Cab Calloway qui arrivait, plus tard il y avait Count Basie, et tous avaient cette espèce de joie, ce sourire, et puis en même temps, il y a quelque chose dans l'œil qui ne trompe pas. Il y a quelque chose à lire entre les lignes qui nous raconte l'histoire des États-Unis. Moi, c'est ça que j'ai appris, au fond. C'est comment ces gens, et je dis ces gens, c'est pas péjoratif, c'est comment ce quart, ce cinquième du peuple américain a réussi à vivre, à exister dans les interstices de la société américaine. Et quand on visite les États-Unis, c'est très important d'avoir toujours l'histoire en tête. Et c'est ce qu'on lit entre les lignes, c'est cette histoire-là, c'est-à-dire comment, malgré tout, malgré l'adversité, ces gens qui sont, il faut quand même le dire dans le cas du Kennington, des musiciens qui, avec lui, d'une intelligence remarquable, parce que sans ça, ils n'y arrivaient pas, ont su s'en tirer et ont réussi finalement, petit à petit, à la force de l'intelligence et de la main gauche du Duke, au piano, à s'en sortir finalement. Et puis à imposer ce qu'ils étaient, pas totalement bien sûr, et c'est pas encore terminé, mais ils ont réussi à s'imposer dans ce pays qui ne voulait pas d'eux. Il faut aussi comprendre ça. Ce pays ne voulait pas d'eux et voulait les maintenir là où ils étaient. Ils ont réussi à passer ces étapes, franchir ces barrages les uns après les autres. Et aujourd'hui, on est là, tous les deux, blancs, en train de révérer ce type, Duke Ellington, à Montreux, dans un festival de jazz, avec une biographie traduite en français. Moi, je me dis, génial.
Le Sénégal a conscience d'aider à la construction de la civilisation de l'universel. En effet, avant même notre indépendance nationale, nous n'avons jamais cessé de bâtir notre politique sur le dialogue, dans tous les domaines, mais fondamentalement dans le domaine de la culture. La culture est le fondement et le but du développement. Mais pour dialoguer avec les autres, pour participer à l'œuvre commune des hommes de conscience et de volonté qui se lèvent de partout par le monde, il nous faut, nous nègres, être enfin nous-mêmes dans notre dignité, dans notre identité retrouvée.
Est-ce que la participation de Duke Ellington au Festival des Arts Nègres en 1966 à Dakar est une manière de se réapproprier ses racines ancestrales africaines ?
Alors ça, je me sens totalement incompétent pour répondre à ce genre de questions. Je vais vous dire pourquoi. C'est que d'abord, ce n'est pas mes racines que je me sens emprunté par rapport à cette histoire des Afro-Américains qui reviennent en Afrique pour éventuellement revisiter leur histoire. Parce qu'il faut bien comprendre que pour eux, oui, c'est un lointain passé, mais c'est le passé et ce n'est pas leur histoire. On voit bien que dans les générations qui ont suivi, tous ces artistes, jusqu'à Michael Jackson, qui sont allés en Afrique, qui ont fait le voyage en Afrique, en fait, ils se sont pris une claque. Pourquoi ? Parce que, quelque part, ce qui leur est arrivé, ils ne s'y attendaient pas. C'est-à-dire que ce n'est pas l'Afrique comme ils l'imaginaient. C'est une Afrique moderne, avec des buildings à Kinshasa, avec une économie, avec, à l'époque, 10% de croissance par an, avec, oui, alors effectivement, une pauvreté extrême, mais aussi des richesses à droite et à gauche. Et puis des gens qui ne les attendent pas, ils n'ont pas besoin d'eux. Alors oui, ils ont des modèles afro-américains. Oui, c'est génial de se dire que Barack Obama peut être président des États-Unis. C'est super, c'est-à-dire que le pays a un petit peu évolué, mais on voit que le retour de balancier, il est très violent derrière. Donc je pense qu'ils s'en méfient un petit peu. En revanche, je pense qu'à l'époque, quand il va à Dakar, qui fait ce voyage, il y a un climat post-indépendance qui fait qu'il est accueilli différemment. On n'est plus dans l'Afrique de l'Ouest, ou même l'Afrique anglophone, des années 80, 90, où l'ambiance est quand même un petit peu différente, quoi. Les Sénégalais, je suis allé quelques fois en Afrique, les discussions que j'ai eues avec eux, notamment sur cette période-là, sur l'importance de Sédar Senghor, par exemple, et comment il était considéré aujourd'hui dans le pays, les jeunes Sénégalais, je dis les jeunes Sénégalais que j'ai rencontrés, mais ça faisait quand même 8 sur 10, me disaient, ouais, Senghor, il a fini sa vie en Normandie, quoi. Il n'est pas mort au pays, et il était député en France. Donc, est-ce que vraiment, pour nous, il reste le président du Sénégal ? On a des doutes, on hésite. On ne sait pas trop comment se positionner par rapport à ça. Donc je pense qu'à l'époque, le climat il est tout autre. Le climat, c'est, oui, alors Duke Ellington, c'est un dieu, on l'accueille avec plaisir, il est des nôtres. Voilà. Mais ce que lui a vécu là-bas, on n'en sait rien. C'est même pas raconté. Donc on ne sait pas, en fait. C'est ça le grand mystère. C'est comment ces artistes, dont le lien avec l'Afrique et leurs ancêtres étaient peut-être plus proches que ces rappeurs qui aujourd'hui font le voyage vers l'Afrique, comment est-ce qu'ils ont pris ce choc de cette Afrique des années 60 où tout était à faire, quoi. Ça, je sais pas. C'est quand même le grand mystère, c'est vrai.
Lordy, Lord of love, God Almighty, down and see my
Pierre-Philippe Kader, savez-vous si Duke Ellington est venu jouer ici au Montreux Jazz Festival ?
Après avoir lu la biographie de Duke Ellington, il était fait nulle part mention de Montreux, en fait, ou de la Suisse. Donc je me disais, bon, alors il n'est jamais venu à Montreux. J'ai fait une vague recherche sur Internet, j'ai rien trouvé. Enfin voilà, parce que j'étais un peu. Je me dis, bon, c'est même pas la peine vraiment de chercher beaucoup. Donc oui, il est venu à Montreux en 1970. Et alors, quid de ce concert ? Qu'en est-il ? Où est-il ? Alors, je pense qu'il est dans une archive, quelque part dans un bunker, hébergé au chalet de Claude Nobs, ou dans les archives de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, ici, ou dans les archives de la Radio Suisse Romande. Allez savoir, il y a tellement de choses. Il y a beaucoup de choses à sortir de toutes ces archives. Donc, peut-être que oui, il y a un concert de Duke Ellington, mirifique, très attendu, que peu de gens ont vu, et qui dort dans les archives. Si je trouve ce concert, je vous préviens, je vous le promets.
Merci beaucoup, Pierre-Philippe Kader.
Merci beaucoup.
Trouvera-t-on un jour ce document rare de Duke Ellington en 1970 à Montreux ? L'espoir fait vivre. Et bien qu'à ce jour, les recherches restent peu fructueuses, nous ne désespérons pas, d'autant que ce pilier de l'histoire du jazz continue de fasciner presque 50 ans après sa disparition. D'ailleurs, le chef d'orchestre classique John Axelrod, venu à Montreux pour toute autre chose, en l'occurrence la présentation d'un concert filmé du chanteur de Led Zeppelin Robert Plant, a finalement laissé glisser notre conversation sur son homologue, Duke Ellington, qu'il révère au plus haut point.
My simple point is this: Duke Ellington was the greatest composers, American composers of the 20th century, for sure.
Je dirais une chose simple. Duke Ellington est certainement l'un des plus grands compositeurs du XXe siècle. Il se trouve que lors de ses expérimentations, il a trouvé l'inspiration dans l'univers de la musique classique. Cela est tout à fait logique. Il suffit d'écouter les études de Frédéric Chopin pour déceler une humeur jazz. Par conséquent, il n'était pas saugrenu que Duke Ellington adapte Casse-noisette de Tchaïkovski ou Peer Gynt d'Edvard Grieg. Il a juste arrangé ces deux œuvres pour leur donner une tonalité swing. Notons également qu'il a composé des œuvres pour grandes formations comme Torn Parallel to Harlem ou la suite Black, Brown and Beige. Il les a orchestrées pour qu'une formation symphonique puisse les interpréter. Son but n'était pas de les faire jouer par un orchestre pop. Il voulait leur donner une qualité classique indéniable. Lorsque je conduis l'Orchestre national du Pays de la Loire en France, je m'adjoins toujours les services du Big Band Bleu Citron, originaire d'Angers, pour ranimer l'esprit jazz de Duke Ellington. Cela me permet de montrer la juxtaposition possible entre l'univers classique et le swing de ce grand maestro. J'ai également travaillé sur les arrangements jazz de certaines compositions symphoniques de Duke Ellington interprétées par l'orchestre de Jeff Tizik. Il n'était pas rare que des compositeurs du XXe siècle fassent appel à des saxophones, à une batterie ou à une basse. George Gershwin en est un bon exemple. Idem pour Leonard Bernstein. Prenons par exemple la suite Black, Brown and Beige ou la composition A Tone Parallel to Harlem. Sur la partition, elles étaient signées EKE. Il s'agissait des initiales de Edward Kenneth Ellington. Il avait lui-même apposé son nom sur certains arrangements, dont la partie de basse. Je trouve cela fascinant. C'est comme voir la signature de Léonard de Vinci ou de Rembrandt sur un tableau. C'est toujours émouvant. Bien sûr, ce n'est pas la première fois que je vois la signature d'un grand auteur comme Beethoven, Mozart ou Brahms sur des manuscrits originaux. Mais pour l'Américain que je suis, qui a grandi à l'écoute du jazz, voir la signature de Duke Ellington au bas d'une partition originale est une grande inspiration. J'ai eu le bonheur d'interpréter et même d'enregistrer certaines pièces symphoniques de Duke Ellington. Et chaque fois que les musiciens avec lesquels je travaille se penchent sur ses compositions, ils sont estomaqués. Ils réalisent combien il est difficile pour des musiciens classiques d'apprivoiser ce répertoire. Ils n'ont pas le sens de l'improvisation, mais lorsque vous prenez le temps de leur montrer qu'il y a un équilibre à trouver entre la sécurité d'une œuvre écrite et la liberté de l'improvisation, ils peuvent enfin donner le meilleur d'eux-mêmes et en tirer beaucoup de satisfaction. C'est un vrai cadeau pour les musiciens comme pour le public.
Between security and freedom, well, you have one of the most extraordinary experiences of music for both the musicians and for the public.
Est-ce que vous ne pensez pas que la musique de Duke Ellington a gagné en respectabilité à une époque où la ségrégation était très vive aux États-Unis?
C'est une question difficile. First of all, you have to understand that in the time of the 1950s and 60s when segregation still existed and there was the demand for...
Je dirais d'abord qu'à l'époque de la ségrégation aux États-Unis dans les années 50 et 60, alors que les progressistes appelaient à une égalité des droits pour les citoyens africains-américains, les compositeurs noirs devaient adapter leur comportement, leur identité, leur culture pour être acceptés par la société. Un noir devait se contenter de jouer du jazz. Un blanc pouvait jouer de la musique classique. Évidemment, cela a été contredit maintes fois, et notamment par un pianiste blanc du nom de Bill Evans, qui fut l'un des plus grands virtuoses jazz du XXe siècle. Quoi qu'il en soit, ce questionnement sur la respectabilité des musiciens noirs à travers leur musique reste d'actualité. Il y a toujours cette séparation entre les différentes cultures aux États-Unis. Duke Ellington a peut-être été le premier à montrer la voie et à prendre une direction encore inédite à l'époque. Il a fait en sorte que sa musique puisse être appréciée par tout type d'auditeurs, quelle que soit la couleur de leur peau, quelle que soit leur religion, etc., etc. Comme me le disait mon professeur, Leonard Bernstein, qui fut tout de même le créateur de West Side Story et d'innombrables pièces symphoniques, en ce bas monde, il y a la bonne musique et la mauvaise musique. Contente-toi de jouer la bonne musique et ta vie sera belle. Duke Ellington disait exactement la même chose. En d'autres mots, oublions les appellations. Prenez Wynton Marsalis. Il est devenu le trompettiste incontournable au sein d'une institution vénérable comme le Lincoln Center. Mais cela ne l'empêche pas de jouer du jazz. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que la musique est le reflet de notre société à l'instant T. Essayons donc d'imaginer ce que Duke Ellington représentait pour la société de son époque. Essayons d'imaginer ce que Wynton Marsalis représente pour la société d'aujourd'hui. Sont-ils toujours perçus comme des artistes issus d'une minorité africaine-américaine? La respectabilité ne vient pas seulement de la qualité des œuvres que vous produisez, mais de la place que vous occupez dans la société, indépendamment de votre langue, de vos racines ancestrales ou d'une hiérarchie imposée. Par conséquent, vous pouvez gagner en respectabilité à partir du moment où vous prouvez que vous tenez votre rang dans la société.
The leadership in the society has become more included. Therefore, even if you are African American, you have developed greater respectability because of your position within that society.
Ce que je comprends de ce que vous dites, c'est que finalement Duke Ellington a essayé d'élever sa propre culture dans une société qui ne le lui permettait pas.
I think so. I'm convinced that whether Duke Ellington was white or black,
je suis convaincu d'une chose, que Duke Ellington ait été blanc ou noir, la qualité de ses compositions l'aurait de toute façon hissé au rang des grands instrumentistes du XXe siècle. Son statut d'Africain-américain a décuplé son envie de tracer un chemin nouveau et inédit. Il a ainsi acquis un statut et une identité dans la société américaine. Il n'est pas seulement devenu un exemple pour la communauté noire, mais pour tous ceux qui cherchaient à exceller dans leur discipline.
Mais est-ce qu'il ne revendiquait pas ses racines ancestrales africaines dans sa musique?
Yes, of course. I mean, even in the Black, Brown and Beige, or the Tone Poem from Harlem, for example, there is a.
Évidemment, il suffit de prendre Black, Brown and Beige ou Tone Parallel to Harlem. Vous reconnaîtrez très distinctement les échos d'une culture africaine, avec ses percussions échappées du Sénégal, qui identifient instantanément la source de son inspiration. Je pense qu'il est impératif pour tout compositeur de transmettre ce que j'appelle leur folklore. Je parle ici de leur identité ancestrale. Johannes Brahms Brahms était fasciné par les danses hongroises. George Enescu aimait jouer avec les danses roumaines. Beethoven laissait transpirer son identité germanique. Pourquoi Duke Ellington aurait-il dû cacher ses racines africaines ? Il est essentiel qu'un musicien venant du Sénégal, du Zimbabwe ou du Kenya n'oublie pas d'où il vient. Nous sommes forcément plus riches en acceptant nos racines et la musique n'en est que plus belle.
Nous pourrions parler pendant des heures parce que vous êtes passionnant, John Axelrod. Une dernière question, est-ce que vous avez lu le livre de Duke Ellington, Music is my mistress?
I have seen the book.
J'ai vu ce livre, je l'ai tenu dans mes mains, je l'ai acheté, mais à ce jour, je ne l'ai toujours pas lu. Je pars en tournée au Japon au mois de décembre et j'aurai tout le temps nécessaire dans l'avion de me plonger dans cet ouvrage imposant. Merci de m'y avoir fait penser.
Merci beaucoup, John Axelrod.
Merci à vous.
Alors, ne rêvez pas, nous n'avons pas déniché la perle rare que nous évoquions en début d'émission, le fameux concert de Duke Ellington à Montreux le 3 juillet 1970, mais dès que nos investigations nous mèneront sur la bonne piste, vous serez les premiers informés. En attendant, le Montreux Jazz Festival continue de filmer chaque année les prouesses de ses invités. Nul doute que vous découvrirez bientôt des images de John Legend, Diana Ross, Gregory Porter, Yola, Michael Kiwanuka ou Herbie Hancock, tous à l'affiche de l'édition 2022. C'est sur cette myriade de noms prestigieux que nous allons nous quitter. Merci à l'équipe du Montreux Jazz Festival pour son accueil toujours chaleureux. Merci à Nathalie Laporte, dont les conseils avisés font oublier les soubresauts d'un reportage ficelé à la hâte. Et mes salutations à Christophe Champin, la voix française de John Axelrod. La semaine prochaine, nous vous ferons vivre le bouquet final du 41e Festival Jazz à Vienne, qui s'achève le 13 juillet et dont nous enregistrerons les moments les plus palpitants. D'ici là, passez une bonne semaine, on se retrouve dans 8 jours. Dans quelques instants, le journal.
Je vous aime à la folie. Ich liebe dich wahnsinnig. Singapore trailer. Anatao Aisuru. Moloko Porvosi. Ti quiero locamente. Ti amo follamente. Vi elsco Erevan Sine. And oh, Miliu te Blasnivia. Love you, man.